Paysans Autrement, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, on est très heureux de vous retrouver pour Paysans Autrement sur Radio Territoria avec nos partenaires bien sûr, SEMAE, l'interprofession des semences et des plants et les émotionneurs. Alors, émission aujourd'hui consacrée aux jardiniers en herbe, de plus en plus nombreux depuis le début de la crise sanitaire il y a un an. Je regardais ce matin les chiffres, on est à plus de 17 millions de jardiniers en France aujourd'hui. Comme vous et moi, par exemple, voilà, on a un petit bout de terrain, on a une jardinière et hop, ça y est, on y va, on sème des graines, on ne peut plus s'en passer. Avec nous aujourd'hui pour parler de tout ça, un certain nombre d'invités, bien sûr, je vais vous les présenter dans un instant. Dans quelques minutes également, plutôt vers la fin de l'émission, un homme discret. Mais qui est une pointure du côté de Saint-Émilion en Gironde avec le château de Ferrand, un vin exceptionnel, 300 ans d'histoire. Philippe Chandon-Mouette sera avec nous. Je vous le ferai découvrir, bien sûr. C'est parti. Allez, on y va, on va semer.
Paysan autrement, petite graine deviendra grande.
Et oui, petite graine deviendra-t-elle grande? C'est toute la question, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas la main verte, malheureusement. Et pourtant, depuis un an et le début de la pandémie, je le disais, vous êtes nombreux à vouloir manger plus sainement, à vouloir faire pousser vos propres légumes dans votre jardin ou sur le balcon ou la terrasse. Pour en parler avec nous, Étienne Baudin, qui est délégué général jardinerie et animalerie de France. Bonjour Étienne Baudin.
Bonjour, merci de m'inviter.
Ben, c'est avec plaisir, merci surtout d'être avec nous, bien évidemment. Vous représentez combien de jardineries dans toute la France?
On représente 1600 jardineries, sachant qu'il y en a un petit peu plus en France, à peu près 2000 jardineries en France.
C'est un secteur qui pèse combien à peu près?
Le secteur de la jardinerie pèse à peu près 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Dans lequel on englobe aussi l'animalerie qui nous concerne un petit peu moins aujourd'hui.
Ouais. Je parlais tout à l'heure de l'engouement des Français pour les petites graines, pour semer, pour planter, avoir ses propres tomates par exemple, ses propres radis à la maison, sur le balcon, sur la terrasse. Comment c'est traduit depuis un an, tout ce que l'on dit là concrètement, qu'est-ce que vous avez constaté?
Je crois que le premier constat, c'est qu'on a vécu une année hors norme. Hors norme à cause du premier, enfin des deux confinements qu'on a vécu au printemps et en novembre. Le premier confinement du printemps a été assez compliqué pour nos adhérents, puisque dès le 15 mars, il y a quasiment un an jour pour jour, on a dû fermer nos magasins, puisqu'on n'était pas considérés comme essentiels. Et puis on a pu réouvrir petit à petit, puisque certains rayons ont été considérés comme essentiels, notamment l'animalerie au début, l'alimentation animale, l'alimentation humaine bien évidemment, et surtout les plants potagers qui ont été considérés comme essentiels à partir de début avril. Donc on a pu réouvrir aussi ce rayon-là à ce moment-là, et donc on a vraiment créé un engouement à ce moment pour les jardiniers amateurs, qui étaient eux-mêmes du coup confinés depuis deux semaines, soit dans leur maison de vacances, soit chez eux, soit chez des proches. C'était mon cas par exemple. Et on redécouvert le jardinage en fait. On découvert tout simplement le jardinage.
Oui, ça a été très prégnant. Vous avez des chiffres sur le marché justement de la semence pour les particuliers, pour vos jardineries par exemple, une augmentation de chiffre d'affaires importante?
Oui, alors sur l'année, les semences, on est à plus 5%, sachant que au global, on a été vraiment tiré par le végétal. Le végétal fait plus 2%. L'animalerie, enfin la jardinerie et l'animalerie fait plus 1%, elle, donc évidemment un petit peu moins. Mais comme j'ai dit, on a vécu des moments très très difficiles. Un mois de mars à moins 60, un mois d'avril à moins 40, et ensuite on voit les chiffres progresser tout le long de l'année, jusqu'au confinement de novembre où là on redescend à moins 10%.
Mais qu'est-ce que ça signifie? Oui. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Étienne Baudin, cette envie des Français d'avoir leurs propres légumes à la maison, de semer leurs salades, de planter leurs tomates? Comment vous l'analysez tout ça?
Je pense qu'il y a une, vous l'avez dit un petit peu en introduction, mais il y a une vraie tendance de fond qui consiste à vouloir produire et manger, manger plutôt ce qu'on va produire. Et ça, c'est très important. Vous l'avez dit, il y a 14 millions ou 17 millions, je crois.
17 millions,
de jardiniers,
oui, à peu près. Hein.
Voilà. Et au chiffre auquel on peut ajouter qu'il y a un Français sur deux qui possède un jardin ou un potager.
Ah oui, un Français sur deux, c'est énorme.
Ouais. Alors il y a deux choses. Il y a le loisir. Hein. Pour certaines personnes, c'est un vrai loisir. Mais on s'est rendu compte aussi nous que c'était aussi un véritable besoin. Un potager, ça permet d'économiser un SMIC sur une année. Donc c'était devenu vraiment très essentiel pour tous ces gens-là qui nous appelaient en disant mais comment est-ce que je vais, enfin où est-ce que je vais acheter mes semences pour faire mon potager cette année si vous êtes fermé. Et donc c'est une des analyses qu'on a pu faire.
Qu'est-ce qui s'est vendu le plus sur les semences, justement? Enfin, par exemple, les tomates, on se dit, oh, ben, c'est assez facile à planter. Les tomates cerises, par exemple, sur les balcons ou sur les terrasses, franchement, on en voit partout à la saison. Hein. C'est devenu un grand classique. Est-ce que ça, c'est, par exemple, un plant de légumes qui fonctionne super bien en jardinerie?
Oui, tout à fait. Le plant de tomate, parce que je pense qu'il est aussi facile à
entretenir,
à jardiner. Ouais. Voilà, et c'est étonnant, j'ai vu que c'était parmi les trois produits qui ont été les plus vendus pendant le confinement. Je crois que le premier étant les haltères. Donc voilà, on est vraiment tout en haut avec les plants de tomates.
Ouais. Dites-moi, est-ce que vous pensez que, parce que là ça y est, hein, c'est la saison à nouveau, on est en train de repartir dans les jardins, on est en train de bêcher, on est en train de ratisser, on ressème à nouveau parce que ça y est, c'est reparti, c'est le moment. Vous pensez que cet engouement là qu'on a connu en 2020, on va le connaître aussi en 2021?
Bah, disons que on l'espère, c'est loin d'être évident puisque il y a une épidémie qui est encore là et on a un gouvernement qui prend un certain nombre de mesures pour faire face à cette épidémie, notamment la fermeture de magasins quand ils font plus de 10 000 mètres carrés ou 5 000 mètres carrés selon les départements. Donc 5 000 mètres carrés, ça concerne à peu près une jardinerie sur deux en France. Donc vous imaginez bien qu'on va avoir du mal, je pense, à répondre à cet engouement si on est fermé, bien évidemment.
Mais je pense qu'il y a des jardineries qui en ce moment sont fermées à cause de ça en France.
Tout à fait. On en parle peu. Il y en a encore peu. C'est pour cette raison-là. Essentiellement en Île-de-France, des jardineries qui font de plus de 10 000 mètres carrés qui sont fermées. Et en fonction des annonces de ce soir, cette jauge peut passer à 5 000 mètres carrés. Et là, on aura des dizaines et des dizaines, voire des centaines de jardineries fermées.
Oui, parce que la question, effectivement, pour être dans l'actualité, on attend effectivement les éventuelles annonces d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui fait un point chaque semaine. Et l'Île-de-France est en tension, effectivement, au niveau des lits de réanimation. Et ça inquiète quand même le gouvernement. On va voir ce qui va se passer, bien entendu, pour la grande région. Dominique Daviaud est également avec nous. Étienne Baudin, je vous propose qu'on l'accueille ensemble. Dominique Daviaud, bonjour. Rebonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes, on va dire, le spécialiste des petites graines chez Semae. Ça vous va comme définition? C'est mignon, non?
Oui, hein? des semences potagères, mais aussi des plants potagers.
Voilà. Bon, Dominique Daviaud, comment vous analysez-vous cette remontada, si je puis dire, du jardin, due justement à cette crise sanitaire?
Je crois que cette crise a été très particulière. Elle a été très compliquée à vivre pour nos professionnels, mais je crois qu'il y avait vraiment une attente de la part des Français. Il y avait une envie, un besoin de nature qui tombait à un moment donné où le temps était propice, puisqu'on a eu du très beau temps pendant le confinement. Les personnes étaient en télétravail, avaient du temps disponible, ils avaient besoin de se changer les idées, d'être, il y avait un besoin de nature, il y avait besoin de se faire du bien au niveau du moral, de prendre l'air, de changer les idées. Et c'est vrai que tout naturellement, les Français se sont tournés vers l'activité de jardinage, avec les difficultés qu'a évoqué Étienne Bodin en début d'émission, qui était la difficulté de pouvoir accéder, de pouvoir disposer de semences et de plants pour aller cultiver dans leur jardin, ou même par rapport à leur terrasse, ou par rapport à un rebord de fenêtre.
Dites-moi, quel est selon vous, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu ça, mais Dominique Davio, quel est le profil de ces nouveaux jardiniers ?
Alors, j'allais dire, il y a deux types de jardiniers. Il y a des jardiniers qui étaient déjà très motivés par rapport à l'activité de jardinage, très motivés pour cultiver des légumes, faire un potager, qui correspond en fait à une envie de produire des légumes sains, naturels, à portée de main, puisqu'ils vont directement du jardin à l'assiette. C'est des personnes aussi qui apprécient ce loisir vert. C'est un loisir passionnant, mais c'est aussi une activité physique qui fait du bien, comme je l'ai dit, au corps et à la tête et au moral.
À l'esprit, oui.
Donc, ces jardiniers-là, on a fait une étude avec un cabinet, une étude qualitative, qui ont montré que ces personnes étaient confortées dans leur activité de jardinage, dans leur envie de cultiver des légumes, et ils sont aperçus autour d'eux qu'il se passait quelque chose, c'est-à-dire que de nouveaux jardiniers qui ne s'étaient pas encore lancés dans la culture des légumes avaient franchi le pas, avaient commencé à jardiner, mais avec une particularité, une envie très forte, mais un problème de connaissance par rapport à la pratique du jardinage, des nouveaux jardiniers un peu novices, parce que ils n'ont pas eu forcément une transmission d'un savoir horticole par leurs parents ou leurs grands-parents, ce qui explique que, par exemple, il y a eu une explosion du nombre de vues des vidéos sur le jardinage pour trouver les astuces, les moyens, les conseils pour savoir comment faire au jardin. Bien entendu, les professionnels du jardinage étaient là également pour accompagner ces nouveaux jardiniers. Alors, nouveaux jardiniers, mais particularité aussi, on a eu beaucoup de témoignages de Français qui se sont mis à jardiner pendant cette période de confinement avec leurs enfants. Donc, c'était une activité partagée et également à ce niveau-là.
Dites-moi, justement, est-ce que, je crois qu'il y a des études qui sont menées en ce moment autour de ça, est-ce que ces nouveaux jardiniers vont poursuivre, à votre avis, leur activité ou pas ? Parce que, évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout le monde n'a pas la main verte. Et moi, par exemple, l'an passé, j'ai pas réussi à correctement faire pousser mes salades, pour ne rien vous cacher. Voilà, ça a pas très bien fonctionné. J'avais semé de la frisée, ça a pas marché. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait pour que la salade pousse correctement, sur son balcon, par exemple, en plein Paris ou en plein Bordeaux ou en plein Marseille ?
Y a une vraie envie aujourd'hui de besoin de nature. Alors, besoin de nature, d'être au contact avec les plantes. Il y a cette envie aussi de mieux manger. C'est une tendance forte à l'heure actuelle, de savoir comment on a produit ses propres légumes.
Oui, je suis d'accord, mais comment on fait pour que ça pousse et que ça fonctionne, quoi.
Voilà, d'autosuffisance à alimentaire. Il y a l'aspect économique qui a été évoqué également. L'idée du 13e mois d'un SMIC d'économie qui est une réalité. Alors, ces nouveaux jardiniers, effectivement, il y a besoin d'accompagnement. C'est pour ça que beaucoup se sont orientés sur les plants. C'est vrai qu'on a parlé les stars en termes de vente. Pendant le confinement, ont été les plants potagers et les plants de tomates en particulier, les plants de légumes fruits à tout ce qui est courgettes, aubergines, mais aussi cucurbitacées, les melons, tout ce qui a été plantes aromatiques également, et puis les petits fruits, les fraisiers et les framboisiers. Alors l'avantage des plants, c'est quoi, en particulier pour les tomates, on n'a pas toute cette phase de réalisation des semis du repiquage.
C'est vrai.
Donc c'est beaucoup plus simple à réussir au niveau des jardiniers eux-mêmes. Et l'autre avantage, c'est que le cycle de production entre la plantation et les premières récoltes est plus court. Les plants sont une première étape pour un certain nombre d'espèces pour réussir au jardin, pour réussir ses productions au jardin. On a parlé des tomates, mais vous avez parlé des difficultés parfois de réussir ses semis au niveau des salades, des chicorées ou des laitues. C'est vrai que de passer par des plants, c'est un moyen de réussir plus facilement.
Je vais faire ça cette année, alors Dominique. Hein, je vais faire ça cette année. Au moins, ça marchera peut-être. Vous avez raison. Tiens, regardez Dominique. J'ai réussi à faire pousser cette plante. Hein, on dirait un pissenlit, mais c'est non. En fait, je rigole. C'est une plante en plastique. Bon, Dominique, je voulais vous poser une petite question très simple. Est-ce que les sachets de graines que l'on achète dans les supermarchés, est-ce que ces graines sont de la même qualité que les graines qu'on va trouver, par exemple, dans les jardineries d'Étienne Baudin?
Alors, il y a une réglementation, c'est une réglementation européenne qui précise la qualité que doivent respecter l'ensemble des semences. Cette réglementation, elle s'applique par rapport à tous les sachets qui sont commercialisés, quel que soit le mode de commercialisation et quel que soit les types de points de vente. Donc, à la fois la commercialisation sur les sites internet, la commercialisation dans des points de vente spécialisés comme les jardineries ou dans des points de vente comme les grandes surfaces en particulier.
Donc ça veut dire Dominique, ça veut dire que même dans le hard discount par exemple, si on trouve des sachets de graines, ils sont soumis à la même réglementation que dans un magasin plus spécialisé.
Tout à fait. L'attente d'une semence, c'est qu'elle puisse bien entendu germer. C'est bien l'objectif d'une semence. Lorsqu'on la met en terre, d'obtenir une plante, il y a des qualités sanitaires également attendues. Et puis il y a une garantie importante, c'est lorsqu'on achète des semences. On achète d'abord une image qui est sur le sachet, qui correspond à une variété. Et l'objectif aussi, c'est lorsqu'on a semé ces graines, eh bien que l'on obtienne la variété que l'on a choisie. Donc toute la réglementation assure ces qualités à l'utilisateur.
Deux petits mots, je ne sais pas si vous allez pouvoir me dire grand-chose là-dessus, mais j'imagine un petit peu quand même, sur la recherche autour de toutes ces espèces que l'on peut cultiver soi-même, etc., etc. J'imagine qu'elle est permanente, cette recherche, qu'on essaie toujours de rechercher des variétés qui vont résister mieux aux maladies, aux parasites, etc. Parce que c'est vrai que pour un jardinier en herbe, s'il faut commencer à sulfater, etc., c'est compliqué quand même, quoi.
Ben le jardinier, en fait, il cherche à produire de la manière la plus naturelle possible.
Ben oui.
Par rapport à ça, il va choisir des variétés qui répondent à ses multiples attentes. Il y a les attentes sur le plan gustatif, bien entendu. Il y a des attentes aussi par rapport à la résistance aux maladies, aux parasites de ces variétés. Et c'est vrai que toute la création variétale apporte beaucoup d'avantages et de progrès dans ce domaine-là. Il y a aussi la recherche de variétés qui facilite le travail du jardinier, qui simplifie le travail du jardinier. Donc il y a ces attentes et l'innovation permet de répondre à ces attentes, mais on s'aperçoit aussi que le jardinier, en fait, il cherche dans son jardin à cultiver un très grand nombre d'espèces et de variétés, une très grande diversité dans ce domaine-là, qui correspond aussi à son attente en tant que consommateur d'avoir une diversité de formes, de couleurs et de goûts dans son assiette. Ouais. Et c'est vrai qu'aussi dans les jardiniers passionnés, mais aussi dans les nouveaux jardiniers. Il y a une attente également de retrouver des variétés anciennes, des variétés de terroir, des variétés locales. Et là, il y a tout un travail de la filière pour répondre à cette attente, c'est-à-dire de retrouver les semences de ces variétés, d'être capable de maintenir à l'identique ces variétés pour permettre nouveau leur commercialisation.
Bon, Dominique, vous restez avec nous, bien évidemment. Vous aimez le bon vin, Dominique ?
C'est pas déplaisant.
Bon, avec modération, hein, toujours, bien entendu.
Avec modération.
Évidemment, puisqu'on parle des jardiniers en herbe depuis quelques minutes maintenant, eh bien, écoutez, on va demander à notre nouvel invité, Philippe Chandon-Mouette, qui est avec nous. Bonjour, Philippe.
Bonjour, Christophe. Bonjour.
Merci. Merci d'être là, évidemment. Alors, Philippe, est-ce que vous êtes un jardinier, tiens, du côté du château de Ferrand à Saint-Émilion? Je crois qu'il y a un joli jardin chez vous.
Écoutez, il y a un magnifique, un magnifique parc qui est classé. Oui. C'est vrai que ça recèle énormément de biodiversité. Elle est tout à fait naturelle. Elle nous tend la main. Et c'est pour ça que le château de Ferrand a décidé d'aller de l'avant dans la biodiversité et notamment dans la culture en bio. Oui. Parce que je pense que vous allez en parler, Christophe.
On va en parler, bien évidemment. Mais il me semble me rappeler, puisque je suis venu vous voir il y a quelques mois maintenant, qu'il y avait de très beaux artichauts dans le jardin, justement, du château de Ferrand. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est ce que...
Non, vous aviez raison, vu. Tout à fait raison.
Voilà. Bon, Philippe, parlons du château de Ferrand. Grand cru classé Saint-Émilion, 300 ans d'histoire au total. Combien d'hectares vous avez ?
Alors, la propriété d'un seul tenant, c'est assez magnifique, c'est 42 hectares et 32 plantés. Et tout autour de cette ceinture boisée des 32 hectares, vous avez cette biodiversité qui se déroule devant nous.
Oui, parce qu'il faut quand même le dire, vous avez engagé depuis plusieurs années un vrai travail pour produire un vin bio. C'est ça qui est en train de se dérouler. Expliquez-nous un petit peu.
Ben, si vous voulez, nous étions en culture raisonnée jusqu'en 2020 et la prochaine vendange, donc en 2021, sera bio, mais ne sera certifiée en bio qu'en 2023, puisqu'il faut 3 ans d'élaboration pour permettre aux vignobles d'arriver à cette certification. Donc, qu'est-ce que c'est que le bio? C'est pas d'herbicides, puisque tous les sols sont travaillés, pas d'insecticides, bien sûr, pas d'antibrotitrice, aucun produit CMR, donc CMR veut dire cancérigène, mutagène et reprotoxique. C'est un terme assez technique, mais on peut utiliser le cuivre et le soufre à dose extrêmement limitée. On apporte de l'engrais organique issu d'une ferme, extensive de la région. On doit travailler les sols de façon manuelle. Donc, il y a un engagement, si vous voulez, de la propriété fait par toute l'équipe du Château de Ferrand auprès de ces rangs de vignes, si vous voulez, pour obtenir nous l'espérons en 2023, le certificat de bio.
Oui. Dites-moi justement, est-ce que quelque part, est-ce que cette décision de passer du raisonné au bio... Au début, est-ce que ça vous a coûté un peu, si je puis dire, quoi? Alors, je parle pas forcément d'un aspect financier, mais voilà, c'est pas facile de passer au bio en même temps, hein, parce qu'il y a plein de questions qui se posent derrière en termes de quantité de produits, etc.
Alors, je vous cache pas que le château de Ferrand est situé sur la commune de Saint-Hippolyte. Saint-Hippolyte, c'est le sud-ouest de Saint-Émilion. Et le château de Ferrand est situé sur le plus haut plateau de l'appellation. Et on a la chance, si vous voulez, d'avoir naturellement cette biodiversité que nous avons engagée et acquis chaque année en préservant ces 8 à 10 hectares tout autour de la ceinture boisée de ces vignes d'un seul tenant. Et c'est vrai que ça nous a coûté, mais naturellement, je dirais que on a fait le pas au fur et à mesure de chaque année. On s'est aperçu que c'était un bonheur. On a mis des ruches, on a vraiment taillé les arbres, essayé de vraiment faire quelque chose, un écrin, si vous voulez, avec l'architecture du château qui est du 17-18e siècle. Donc c'est un nouvel écrin et dans son ensemble, entre la vigne et le château, ben c'est un havre de paix où respire le bonheur et les grappes puissent s'exprimer tout au long de l'année.
Si vous deviez qualifier justement votre vin, ce nectar, vous pourriez le qualifier de quelle manière ?
Ben, je dirais que c'est des vins qui sont sur la fraîcheur du terroir. Il y a une certaine concentration, un équilibre entre un merlot qui est posé sur l'argile, les cabernets francs sont posés sur le calcaire, donc des vins très équilibrés qui recèlent en bouche une complexité, une finesse, une élégance en fin de bouche et qui donnent en bouquet final, je dirais, une minéralité avec une acidité qui lui confère une garde importante. Et c'est ça l'essentiel de notre savoir-faire, de pouvoir donner de l'élégance et de la finesse à nos vins.
Ouais. Philippe Chandon-Mouette, une question d'actualité. On a tous parlé là avant vous évidemment des conséquences de la crise sanitaire pour le secteur. Alors on parlait des semences, mais il y a les conséquences aussi pour vous pour la viticulture. Pour le château par exemple de Ferrand à Saint-Émilion, quelles sont les conséquences ? Il y a les conséquences touristiques. J'imagine que les touristes donc ne sont pas revenus, bien évidemment, depuis un an ou très peu. Enfin, il y a des pertes économiques importantes aussi.
Il y a des pertes économiques. Si vous voulez, avec mon épouse Pauline, nous avons rénové ce château pendant plus de 3 ans. Donc, l'architecture du château, la restructuration du vignoble, on en a parlé. Il est vrai qu'on reçoit 8 à 10 000 personnes par an. La particularité du château, c'est que nous engageons des sommeliers. Nous avons deux à trois sommeliers qui peuvent recevoir donc l'amateur de vin, celui qui vraiment l'archétype, je dirais, du consommateur qui est passionné par le vin. Et bien sûr, on a été affecté par le phénomène du tourisme. Nous avons la chance d'avoir rénové quelques chambres à l'intérieur du château. Donc, nous sommes ouverts, je dirais, en chambres d'hôtes et nous respectons, bien sûr, toutes les mesures sanitaires que demande le gouvernement.
Au niveau des ventes de vin proprement dites, les cavistes ont pu rester ouverts, hein, ils sont essentiels, hein, on va dire ça comme ça. Vous êtes essentiels, ça veut dire quoi que vous avez pu continuer, même pendant les confinements, à vendre du vin au château par exemple ?
Oui, les cavistes sont des vecteurs, si vous voulez, ils transmettent l'identité du château et c'est vrai que on travaille la main dans la main. Bon, il y a la place de Bordeaux qui est aussi importante avec les courtiers, les négociants. Donc, si vous voulez, c'est tous un arc complet qui permet aujourd'hui au château de pouvoir vivre bon an mal an, je dirais, mais il nous manque les étrangers et les étrangers font la renommée du patrimoine français. C'est essentiel pour nous et espérons qu'on va pouvoir rouvrir assez vite.
Est-ce que vous préparez le rebond, si je puis dire, parce que la crise sanitaire à un moment va quand même s'amenuiser. Enfin, il y a la vaccination, etc. Est-ce que vous êtes en train de préparer la grande réouverture, si je puis dire?
Je dirais que une bonne nouvelle parmi d'autres, mais je dirais que le gouvernement américain a suspendu pendant 4 mois les taxes américaines
sur le vin.
Sur le whisky. Donc là, ça a une bouffée d'oxygène. Tout le monde est en train de travailler sur ce marché. Oui, nous sommes prêts. On est dans les starting blocks. En plus, nous sommes en début du printemps. Donc, vous parliez de potager. Donc, tout est en train de se préparer à pouvoir accueillir nos connaisseurs de vin et de pouvoir montrer à ce que je dirais cette population qui veut de l'excellence, un produit aussi de terroir et d'excellence.
Oui, parce que ce qu'il faut dire pour terminer, c'est que effectivement le restaurant, si je puis dire, chez vous au château de Ferrand à Saint-Émilion est absolument magique, hein, on peut le dire, avec un bar voilà qui est une sorte de manège, hein, voilà. Et puis au bout du restaurant, il y a donc la terrasse et le fameux jardin potager. Et c'est pour ça que je parlais des artichauts tout à l'heure. Et donc là, ben, c'est en plein semis, j'imagine. Hein, c'est parti là, voilà.
Oui, si je peux me permettre, c'est pas un restaurant, ça, c'est là où on reçoit la propriété, si je peux me permettre.
Voilà. Mais vous pouvez vous permettre, oui.
Non, on a un chef à demeure et si vous voulez, on reçoit nos hôtes avec les produits de saison. C'est très important et je crois que vous en avez dégusté pendant votre visite.
Ouais, je n'ai aucun mérite, Philippe, franchement. Merci en tout cas beaucoup d'avoir été avec nous, Philippe Chandon-Mouette, pour nous parler du château de Ferrand. C'était évidemment le portrait du jour dans cette émission Paysan Autrement. Merci à nos invités, merci à Étienne Baudin qui était là pour représenter les jardineries, à Dominique Davio de Semae. Et puis, bah, écoutez, on va se retrouver demain. On vous souhaite à tous le meilleur pour la suite, bien entendu, de cette saison. On se retrouve demain pour Paysans Autrement avec Anne Solange-Muis qui sera à ma place et on parlera des fourragères. Oui, il faut des herbes de qualité pour nourrir les animaux et avoir une viande d'excellence. Eh bien, on en parlera demain tous ensemble sur Radio Territoria. Je vous dis à demain, on vous embrasse.
Paysans Autrement. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.